Bénissons le Seigneur pour ces instants de louange que nous avons pu avoir. Nous avons pu glorifier Dieu pour sa création, sa puissance, son autorité sur toute chose. Et maintenant, nous voulons, si vous le voulez bien, continuer cet enseignement que nous avons débuté il y a de longs mois maintenant, puisque c'était à l'automne 2022, donc il est temps maintenant qu'on se précipite vers la fin pour pouvoir passer à d'autres choses. Mais donc, je vais maintenant en venir aux choses un peu plus pratiques. Je dis un peu plus pratiques, parce que ce ne sera pas vraiment de la pratique, mais enfin, ce sera un peu plus concret, j'espère. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu cet enseignement et qui seraient là éventuellement pour la première fois, juste, encore une fois, comme d'habitude, vous rassurer sur le fait que ben, c'est un sujet qu'on aborde pour l'instant. C'est pas un sujet. On ne parle pas que de ça dans cette église. On ne parle pas que du monde spirituel. On ne parle pas que des démons. On ne parle pas que des forces des ténèbres. Mais en même temps, c'est un sujet dont la Bible parle et donc nous considérons qu'il faut en parler et que ça ne doit pas nous faire peur. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Il faut qu'on puisse dire les choses. Parce que c'est aussi en disant les choses que nous pouvons tous avancer. Donc cet enseignement porte sur le monde spirituel, et là nous sommes dans la partie consacrée au monde spirituel qu'on a appelé le monde spirituel mauvais, c'est-à-dire les forces des ténèbres, c'est-à-dire Satan, ses démons, les esprits impurs. C'est de ça dont nous parlons. Alors la dernière fois, si vous vous souvenez, c'était maintenant en avril, nous avions parler des différents types d'actions sataniques qui existent, comme les blocages spirituels, les liens spirituels, ce qu'on a appelé la démonisation. Et donc on a montré qu'en fait, quand on parle d'action des démons, c'est en fait des choses très diversifiées. Il n'y a pas une seule façon d'agir, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle les influences démoniaques, qui sont des influences externes. Et puis il y a les moments où des démons peuvent loger dans des personnes, comme nous le voyons dans la Bible. Et ici, nous allons plus voir comment finalement la Bible nous enseigne à réagir lorsqu'on est confronté aux forces des ténèbres. Alors que je dis force des ténèbres parce que une expression qui est biblique, mais l'idée est vraiment de montrer que chacun d'entre nous, il peut nous arriver, comme chrétien, dans l'église ou en dehors de l'église, il peut nous arriver d'être confronté à une situation qui implique les forces des ténèbres. Ce sont des choses qui existent, ce n'est pas du fantasme, les démons existent, les esprits impurs existent, et donc il peut arriver que nous ayons à nous positionner par rapport à ça, que nous ayons à réagir par rapport à ça, et nous allons aujourd'hui essayer de voir quelques éléments concrets, et j'espère que ce sera clair, et que ça nous aidera tous à avancer dans la compréhension de ces éléments-là. Et concrètement, maintenant, puisqu'on a parlé beaucoup de théorie, que faire face aux puissances des ténèbres? Alors, une première idée principale sur laquelle nous allons insister, c'est que tout être vivant sur la terre et dans le ciel est soumis au Christ. Ou, comme on l'a chanté tout à l'heure, le Christ est ressuscité, et lorsqu'il a été ressuscité, il a été glorifié, et en étant glorifié et exalté, il a obtenu la puissance et l'autorité sur toute chose dans l'univers. Donc Jésus a autorité sur toute chose, ce qui signifie que Jésus a aussi autorité sur tout esprit, dont les esprits impurs. Donc Jésus a autorité évidemment sur les anges, puisque les anges l'adorent, le célèbrent, il a autorité sur nous en tant qu'être humain, même si cette autorité ne se manifeste pas concrètement, puisqu'on est dans un temps où on est libre, chacun fait ce qu'il veut, mais Jésus a autorité sur tout esprit. Matthieu 28, verset 18 dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En fait, Jésus possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien qui soit soustrait à son pouvoir. Alors évidemment, il y a des choses actuellement dans le temps de la grâce où nous sommes qui sont libres. Je veux dire, le monde vit dans le péché, les gens se fichent de Jésus et tout ça. Donc il n'exerce pas son pouvoir sur toute chose, mais il possède autorité sur toute chose et notamment il a acquis Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, il a acquis une autorité et une victoire définitive et ultime sur toute puissance impure. Lorsque Jésus est mort sur la croix et lorsqu'il a reçu la résurrection de son Père, il a écrasé les puissances des ténèbres, il a écrasé la puissance de Satan. C'est dans Colossiens 2:15 qu'il est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » On vient de célébrer la croix, mais n'oublions pas que la croix, elle n'a pas seulement pour effet de nous sauver, nous, et de nous mettre, nous, en position de racheter, sauver par le Seigneur, etc. La croix a aussi comme corollaire le dépouillement des puissances des ténèbres, le dépouillement des dominations, des autorités. Alors ici, dans ce texte-ci, domination, autorité, ce sont des autorités démoniaques et pas des autorités angéliques. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Et donc, en fait, cette idée-là, j'insiste, parce que c'est vraiment l'idée centrale sur laquelle tout doit reposer lorsqu'on parle de situation avec des puissances impures, c'est que Jésus a autorité sur elles. Jésus a autorité sur les esprits impurs. Jésus a acquis autorité, victoire sur les esprits impurs. Sur terre, déjà, on sait que Jésus avait tout pouvoir pour libérer les captifs. Je redonne un exemple. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Donc ça, vous connaissez les évangiles, vous avez déjà lu à des centaines de reprises à quel point, déjà sur terre, Jésus avait tout pouvoir sur les esprits impurs. Et aussi, vous avez certainement lu que déjà dans les évangiles, Jésus avait donné ce pouvoir-là à ses disciples et aux apôtres d'abord. Il les avait fait venir et leur avait dit, voilà, je vous donne le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Et c'est ce que les disciples ont fait. Vous vous souvenez d'ailleurs de ce texte où les disciples viennent vers Jésus et disent, mais tu te rends compte, Seigneur, mais même les démons nous sont soumis, etc., etc. Et qu'il leur répond, mais ne vous réjouissez pas de ça, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc ça veut dire que déjà, avant même, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'avant même de passer par la croix, Jésus déjà exerçait une autorité sur les démons, et déjà avant, il avait donné à ses disciples cette autorité. Et cela est encore plus décuplé maintenant que la croix a eu lieu, maintenant que Jésus est mort sur la croix, cette autorité est encore plus décuplée. Et donc, Jésus a autorité sur les esprits impurs, et par la puissance de Jésus, les authentiques disciples peuvent aussi ordonner la libération des captifs. Alors je dis authentique disciple parce que en fait je ne sais plus si on en avait parlé l'autre fois, mais dans Actes il y avait l'exemple des fils de Sceva qui ont tenté une délivrance, qu'ils ont échoué et qui se sont retrouvés tout nus parce que les démons les ont maltraités. Et donc là en fait le problème c'était pas des disciples de Jésus, c'était pas des authentiques disciples de Jésus, ils jouaient avec le nom de Jésus et donc raison pour laquelle je dis oui. Les disciples de Jésus ont une autorité, mais les authentiques disciples de Jésus. Il faut réellement soi-même être enraciné en Christ, il faut soi-même avoir reçu cette nouvelle naissance, être pleinement enfant de Dieu pour pouvoir exercer cette autorité que Jésus a sur les esprits impurs. Et donc, pour donner un exemple du fait que ce n'était pas réservé à Jésus ou aux apôtres au moment où Jésus était sur terre, dans Actes 16-18, il est écrit « Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Donc, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. » Donc, lorsque Jésus est présent lui-même sur terre, il ordonne directement aux esprits impurs de sortir. Et maintenant que Jésus est au ciel, ses disciples continue le ministère de Jésus et au nom de Jésus, ils ordonnent aussi aux esprits impurs de sortir et d'arrêter de maltraiter des personnes. Alors, juste pour dire aussi que dans Marc, c'est d'ailleurs quelque chose qui a caractérisé très vite le ministère de Jésus et qui a étonné les gens, en fait. Et donc, dans Marc 1, 27, il dit « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ?» Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ils étaient étonnés, ils disaient, waouh, mais Jésus, t'es extraordinaire. Il commande aux esprits impurs et ils lui obéissent. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait caractéristique du ministère de Jésus. C'est que même les esprits impurs lui obéissent. Alors, quelques principes concrets pour parler de situations dans lesquelles on peut être confronté avec des esprits impurs. Alors, premièrement, il faut se dire que lorsqu'on rencontre une personne parce qu'on peut aussi être une personne dans la vie de qui il y a des manifestations bizarres, ou lorsqu'on rencontre quelqu'un, la première chose très importante à se dire, c'est que les personnes ont avant tout besoin de recevoir Christ et de croire en l'évangile de la bonne nouvelle, de se repentir de leurs péchés. La délivrance de la puissance des ténèbres ne peut être vécu hors du chemin de la conversion et de la nouvelle naissance. La nouvelle vie en Christ doit être notre premier objectif dans toute démarche de délivrance. En d'autres termes, lorsqu'on rencontre une personne qui exprime qu'elle vit des choses avec des esprits impurs ou avec la puissance de Satan, notre premier objectif, lorsque c'est possible, ce doit être d'amener la personne à Jésus-Christ. C'est-à-dire de permettre à la personne de comprendre l'évangile de Jésus, de comprendre la bonne nouvelle de Jésus, de se repentir de ses péchés, de croire, et ainsi de vivre la nouvelle naissance qui lui fait passer de la puissance des ténèbres à Dieu. D'accord ? Alors, lorsqu'on a une personne, parce que vous pourriez, et ça existe, hein, vous savez, c'est pas du tout, parce que vous faites toujours comme si de rien n'était, avec vos petits regards, d'innocents. Vous êtes une bande d'innocents. Et vous êtes des faux innocents. Mais ça existe, hein, quand il y a des gens comme ça, d'ailleurs, c'était un peu aussi ce que Natacha racontait la semaine passée, mais vous pouvez rencontrer comme ça quelqu'un, un collègue, un ami ou quoi, qui dit, t'es chrétien, toi, moi, ce qui m'arrive, ma fille, mon frère, ma sœur, il se passe ceci dans notre maison, ou il se passe ceci dans notre réalité, ou il y a telle chose qui se passe dans ma vie. Ben, la première chose qu'on va faire, si on se rend compte qu'une personne, effectivement, vit des choses qui ont une dimension démoniaque, c'est qu'on va d'abord essayer de conduire la personne à Jésus-Christ. Quand c'est possible? Hein, vous connaissez, vous savez que dans certains textes de la Bible, il y a des gens qui sont tellement sous l'emprise démoniaque qu'ils ne savaient pas dialoguer avec eux. Hein, comme dans Marc 5, vous ne savez même pas discuter avec la personne parce qu'elle est vraiment sous l'emprise et il n'y a pas d'espace. Mais quand la personne a tous ses esprits, et qu'elle dit, moi par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je sais que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui tient ma vie. Bah, lorsqu'une personne va dire ça, la première chose, viens à Jésus. Viens à Jésus, crois à la bonne nouvelle, reçois Jésus, abandonne tes péchés, repens-toi de tes péchés, fais cette démarche. Parce qu'on ne peut pas travailler à délivrer quelqu'un qui est encore dans la puissance des ténèbres et qui appartient encore à la puissance de Satan. Il faut que la personne puisse faire ce passage. Et donc, on va toujours... Ça, c'est important, hein, parce que sinon vous pouvez être appelé chez quelqu'un, vous arrivez, vous commencez à essayer de chasser des démons, mais la personne n'est pas née de nouveau. Donc la personne ne bénéficie pas, si vous voulez... De la pleine identité des enfants de Dieu. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Une chose importante aussi, c'est que parfois, on présente la délivrance des démons comme étant une œuvre spéciale, comme étant, hein, on dit, les ministères d'exorcisme, il faut des gens spécialisés dans l'exorcisme, mais il faut vraiment se dire que la délivrance de la puissance des ténèbres, ça fait partie de l'évangile. Le message de l'évangile, son contenu, c'est non seulement que Jésus nous sauve, qu'il nous donne la vie éternelle, mais c'est aussi qu'il nous délivre de la puissance de Satan. Donc l'évangile a cette puissance de libération de la puissance des ténèbres. Et donc, c'est pas un truc en plus, c'est pas une œuvre en plus. Ça fait partie des conséquences de recevoir Jésus, c'est de recevoir aussi la délivrance des sacs qu'on tire avec nous, et qui ont un impact sur notre vie. Et donc, c'est pour ça que c'est important de d'abord annoncer l'évangile avant que de commencer à entrer dans quelque chose de délivrance. Et vous savez, quand on s'engage vraiment dans l'évangélisation, on ne manque pas de rencontrer ce genre de situation. Si vous allez réellement rencontrer des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont vécu toute leur vie loin de Dieu, on ne manque pas de rencontrer des gens dans lesquels on peut clairement dire, là, dans leur vie, il y a quelque chose qui est du royaume des ténèbres. Et donc, quand on évangélise, on doit non seulement avoir en tête d'annoncer l'évangile, mais on doit aussi avoir en tête d'aider les gens à pleinement recevoir la délivrance qu'il y a en Jésus. La délivrance qu'il y a en Jésus. Alors, c'est très important aussi de même quand on est déjà chrétien, là je passe vraiment un peu des deux, même quand on est déjà chrétien, c'est important aussi de bien monitorer ce qu'il y a dans nos vies qui peut ouvrir des portes justement à l'ouvrage, au travail démoniaque. C'est important de ne pas passer à côté des choses qui sont là et qui pourraient aussi être des domaines d'accroche, si vous voulez, de Satan dans nos vies. Et c'est pour ça, c'est ce qui est noté ici, c'est pour ça que à l'époque, les baptêmes étaient toujours précédés d'entretiens pré-baptismaux. Et donc, avant de baptiser les gens, on les rencontrait, mais ça, je parle dans l'église primitive, hein, c'est pas juste hier matin, hein, on les rencontrait et c'était l'occasion de faire un nettoyage. Parce que vous avez des gens, comme ça, ils viennent à Jésus, ils sont tout contents, mais ils vous disent pas que, effectivement, ils avaient une grand-mère qui s'amusait à faire tourner les casseroles. Ah oui, quand j'étais petit, ma grand-mère faisait ça, et donc, vous les baptisez, ils avancent comme ça, mais ils ne savent pas qu'il y a encore des choses qui les tiennent. Et donc, c'est important, parfois, d'arrêter les gens et de dire, oh, maintenant, faisons le point. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui pourrait aussi? Et donc, c'est important qu'on s'arrête, hein. Donc là, même si ça se fait pas dans notre vie, mais il faut s'arrêter pour se dire aussi, voilà, dans ce genre d'entretien pré-baptismaux, j'ai déjà entendu des choses qui m'ont... Je me suis dit, mais c'est heureusement qu'on a demandé à la personne d'avoir cet entretien, parce qu'elle ne se serait même pas rendue compte des impacts que ça peut avoir. En d'autres termes, ce que je veux dire ici, c'est, même comme enfant de Dieu, nous devons toujours avoir un œil sur notre vie. Nous devons toujours être au clair sur notre vie et se dire, allez, Seigneur, je veux voir ce qu'il y a dans ma vie, je veux voir s'il y a des portes ouvertes éventuellement dans une chose ou dans une autre, je veux voir qu'est-ce qui pourrait, et ne pas courir comme ça à l'aveuglette, parce que c'est aussi des choses qui parfois peuvent nous faire problème. Il faut se dire aussi que il y a parfois des influences démoniaques qui ne citent pas leur nom. On ne s'en rend pas compte forcément. On ne se rend pas compte qu'une situation qu'on a, par exemple, dans son cœur, ou par exemple, je lisais encore un auteur qui parlait. C'est un exemple. Encore une fois, je n'ai pas dit que tout le monde c'est comme ça. N'allez pas dire que voilà. Mais j'ai un auteur qui parlait de ces phases dépressives. Un serviteur de Dieu qui parlait de ses phases dépressives, et il disait qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ce n'était pas juste son tempérament psychique. Ben, y a des gens qui sont dépressifs par tempérament, mais il s'est rendu compte, lui, que c'était réellement une emprise démoniaque dans sa vie. À lui, je ne t'ai pas dit que c'est pour tout le monde. Voilà. Et donc, ça veut dire que parfois, on se rend pas nécessairement compte qu'une chose n'a pas juste, parce qu'en fait il y a toujours des origines personnelles, donc c'est-à-dire je suis moi, j'ai mon tempérament, j'ai ma personnalité, j'ai mon histoire, voilà. Nous avons aussi parfois des péchés qui viennent juste de la chair, et donc ça c'est juste, mais parfois il y a aussi des choses qui peuvent avoir une origine externe, et il faut avoir les yeux aussi pour le voir et pour s'en rendre compte. Alors deuxièmement, et ça, j'ai insisté la dernière fois là-dessus, il est toujours nécessaire et important de discerner par le Saint-Esprit ce en face de quoi on se trouve. Nous avons besoin du discernement. Le discernement, c'est une arme fatale pour le dévoilement des œuvres des ténèbres. Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous montrer ce qui est en train de se passer. Je viens de donner l'exemple d'une personne qui se rend compte qu'il y a une œuvre démoniaque dans sa vie. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à distinguer, à dire, ben là, non, c'est juste, une circonstance de vie, c'est juste une personne qui est comme ça, voilà. Et puis là, ah non, c'est quelque chose de particulier. Et donc ce serviteur de Dieu-là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ben oui, moi, j'étais là-dedans, mais je n'arrivais plus à servir Dieu. Et donc effectivement, j'avais mes phases de dépression, et pendant ces moments-là, je ne faisais rien. Je ne savais plus ouvrir ma Bible, je ne savais plus... Et donc là, on voit que l'ennemi a un intérêt particulier à empêcher cette personne de progresser, de s'attacher à Christ, c'est de l'accabler. Hein? Par exemple, l'ennemi, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, c'est nous accabler. Hein? Je vous avais parlé de cette arme fatale de l'ennemi, le découragement. Une fois qu'il attrape un chrétien avec le découragement, quand on est découragé, on ne fait rien. Hein? Je vous avais parlé du découragement, je vous avais parlé de l'éloignement, comment l'ennemi aime nous éloigner de nos frères et sœurs pour pouvoir justement nous empêcher d'être actifs. N'oubliez pas que l'ennemi ne veut pas que l'évangile progresse. Il ne veut pas. Il n'a pas envie que nous nous engagions dans l'évangélisation. Ça n'intéresse pas. Il fera tout pour que nous soyons une église qui n'évangélise pas. Il fera tout pour que nous ne prions pas, pour que nous ne servions pas. Et donc, ça l'arrange quand nous sommes accablés ou, comme je vous disais, quand on est occupé à des bêtises, on a des disputes d'église pour des morceaux. Ah oui, il y a un morceau vert ici, c'est horrible. Faisons une réunion, rassemblons-nous, rassemblons les anciens et les diacres. Pourquoi c'est vert ici? C'est pas non. Et donc voilà, vous êtes tous là, mais c'est vert, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est vert? Et pendant ce temps-là, il fait ce qu'il veut derrière vous. Voilà. Et donc, il faut être alerte sur comment l'ennemi peut nous détourner et peut nous empêcher de servir le Seigneur. Troisièmement, toute démarche de délivrance se réalise par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pas un slogan quand on dit au nom de Jésus. Hein, ce n'est pas un mot qu'on utilise, c'est pas une formule magique. La preuve, hein, c'est que les fils de Skeva dans Actes, ils l'avaient pris comme une formule magique. Ils s'étaient dit, on va dire au nom de Jésus que Paul prêche, ça va marcher. Mais c'est pas une formule magique. Hein, c'est quelque chose qui est prononcé par un véritable enfant de Dieu qui est enraciné en Christ et qui se base sur l'œuvre de Jésus pour dire au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps. Au nom de Jésus, je t'ordonne d'arrêter de tourmenter cette personne. Donc c'est l'autorité de Jésus qui est invoquée sur les esprits impurs. Ce n'est pas l'autorité de notre personne. Donc c'est pas parce qu'on est grand et fort comme Aurélien et Anthony. C'est pas parce qu'on est on a une voix qui porte comme Marc. C'est pas pour ça, c'est à cause du nom de Jésus. À cause de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et donc c'est dans cette dimension-là que on va proclamer que Jésus est le ressuscité, que Jésus est le vainqueur. On va proclamer que Jésus a pouvoir dans les cieux, sur la terre, et qu'il a pouvoir sur cet esprit impur. Et donc, il arrive que des esprits impurs se mettent à parler au travers d'une personne, et lorsqu'ils se mettent à parler, on ne fait que leur rappeler la victoire de Jésus. On leur dit, Jésus a vaincu, tu n'as pas le droit d'être dans ce corps-là, tu n'as pas le droit de tourmenter cette personne-là, et au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir maintenant. Donc, on prend une autorité au nom de Jésus, et pas en nos noms personnels. Quatrièmement, certaines démarches de délivrance peuvent nécessiter le jeûne, la prière et l'imposition des mains. Alors, je vais juste prendre Matthieu 17, 21, qui dit mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc pour le contexte, ce sont les disciples qui essayent de chasser un démon, ils n'y arrivent pas. Et Jésus leur dit, mais oui, mais c'est normal parce que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, pour ceux qui ont des bibles d'études, vous autres qui êtes bien équipés, avec votre petite bible d'études Thomson, avec des petites références et tout ça, si vous avez une bible d'études, vous verrez qu'il y a une controverse sur ce verset-là, où dans certaines bibles, le mot « et le jeûne » ne se trouve pas dans le texte. Okay? Parce qu'en fait, il y a des manuscrits dans lesquels on ne trouve pas cette deuxième partie. Et donc, il y a des manuscrits dans lesquels on n'a que « mais cette sorte de démon ne sort que par la prière ». Alors moi, je choisis de prendre le tout, parce que, premièrement, une première chose qu'il faut se dire, c'est que ce verset, indépendamment de ce qui est écrit dedans, il nous apprend une chose qui est très importante, c'est que tous les démons ne se chassent pas de la même façon, puisqu'il dit « cette sorte de démon-là ne se chasse que de telle façon ». D'accord ? Donc il y a parfois des œuvres démoniaques qui demandent des efforts spécifiques. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc il y a des moments dans lesquels les disciples ont chassé des démons comme ça, en disant « voilà, tu sors ». Et puis il y a des moments où, là, il leur dit qu'il faut prier. Et donc, je voudrais insister là-dessus, parce que je sais que ce n'est pas du tout une habitude qu'on a dans le milieu évangélique, et quelque part c'est bien, mais ce verset nous apprend qu'il y a des moments où l'intensité de la prière est importante. On aime bien dire, oui, mais c'est pas la quantité qui fait. Jésus dit que là, Jésus est en train de montrer qu'il y a une intensité particulière qui est demandée. Donc ça veut dire qu'il ne suffira pas dans cette situation-là de dire, bon ben voilà, maintenant va-t'en, il va falloir prier, je vais rajouter, il va falloir jeûner. Jeûner ? Ça veut dire quoi ça, comme disent les... Quoi, c'est quoi, ne pas manger ? Oui, c'est ça. Pendant combien de temps ? Ben, pendant un jour, deux jours, trois jours. Pendant trois jours ? Mais je ne saurais pas, je vais mourir. Mais il faut s'entraîner. Mais je parlerai un jour de ça, parce que sinon, voilà. Mais tout ça pour dire que il y a vraiment parfois une intensité particulière à avoir. Et donc, retenez de là que dans nos vies personnelles et dans l'Église, il est bon de mettre des temps à part pour des prières intensives. C'est très bien et c'est réjouissant d'avoir nos réunions de prière mardi après mardi. C'est fantastique de le faire. Mais il peut arriver des situations dans lesquelles on doit réserver du temps spécifiquement à la prière pour une situation particulière, pour un problème particulier. Il y a des moments où il faut redoubler d'efforts. Nous, dans nos églises, on est content, on a fait notre heure de prière, on dit « Amen, merci Seigneur », voilà. Mais il y a des moments aussi où l'intensité est importante. Par rapport à ça, vous connaissez, certains connaissent Derek Prince, qui est un grand serviteur de Dieu, et dans un de ses livres, justement, qui s'appelle « Ils chasseront les démons », Derek Prince raconte que parfois, lui, il a eu un ministère comme ça, moi, je ne connais pas tout ça, j'ai pas du tout une grande expérience dans ce domaine-là, mais il raconte que parfois, le démon refuse de sortir pendant des heures. Parfois il faut se battre à plusieurs, il faut prier longtemps, pour que les choses sortent, parce que l'ennemi ne veut pas sortir de là où il est logé, ça ne l'arrange pas. Et donc parfois il faut vraiment redoubler d'efforts. Donc retenons ça, retenons aussi que il y a des armes additionnelles dans la vie spirituelle et que nous devons les mobiliser les unes avec les autres. La prière, c'est une arme. Le jeûne, c'est une arme. Je rajouterai, la louange, c'est une arme. Vous connaissez que l'esprit impur qui agitait Saül ne s'arrêtait, on en a parlé, que au son de la harpe de David. Donc la louange a aussi une puissance, et parfois, il faut aussi qu'on investisse ces choses-là. Je parlais aussi de l'imposition des mains, c'est très connu aussi que l'imposition des mains doit être pratiquée. Et ce sont des choses qui se sont... On n'a pas, nous, à être des philosophes. Dieu a donné des outils dont on parle dans la parole. Nous devons utiliser les outils. Voilà. C'est comme l'onction d'huile. Nous, on a toujours des grandes théories. Oui, mais bon, l'onction... Dieu a prévu les choses comme ça. Donc faisons les choses comme Dieu a prévu et n'hésitons pas à utiliser les armes qu'il nous a données. Et donc, ça, c'est vraiment important. C'est quand même de montrer que parfois, c'est pas simple non plus. Il y a des gens pour qui ça peut être compliqué. Autre élément important, c'est que certaines démarches de délivrance nécessitent des abandons particuliers. Des abandons d'objets, des abandons de dons, la reconnaissance et la confession d'actes répréhensibles, la confession des péchés est de toute façon essentielle. Il faut, parce que les démons n'entrent pas par hasard, en général, ce sont des péchés spécifiques qui ouvrent la porte, ou des situations spécifiques qui leur ouvrent la porte. Il faut, en même temps qu'on fait la délivrance, il faut en même temps se débarrasser de toutes les choses qui peuvent avoir un lien avec cette ouverture de porte démoniaque. Et donc, parfois, ça nécessite de confesser, ça c'est toujours important, il faut confesser nos péchés, confesser ce qui a été fait et qui a peut-être ouvert la porte, et se débarrasser des choses qui nous restent en lien avec ces péchés. Vous savez notamment que les gens qui ont eu des passés d'occultisme, on leur demande de prendre tout ce qu'ils ont utilisé et de les jeter. Hein, d'accord ? D'ailleurs, c'est encore pour ça qu'on fait des entretiens pré-baptismaux, parce que c'est le genre de choses où on doit dire, avant ton baptême, tu dois tout jeter. Il arrive aussi que, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des manuels de magie blanche, ça peut être des manuels de tarot, de tous ces trucs-là. On demande aux gens de s'en séparer. Et parfois, on les brûle. Pour dire que ça soit fini une fois pour toutes. Je vous avais déjà raconté, il me semble aussi, l'histoire d'une femme, je vais encore me faire haïr pour ça, c'est pas grave. Ces gens-là pardonnent facilement, ils se reconnaîtront, mais ils pardonnent, donc ça va. Je vous avais déjà raconté cette dame, où un jour à l'église, on était en journée de prière, c'est-à-dire qu'il y avait un samedi où on priait toute la journée, et dans le moment de prière, elle s'est rendue compte qu'il y avait dans sa vie, au-delà de sa propre personne, mais dans sa famille, qu'il y avait une domination particulière de l'alcool dans leur famille. Je ne parle pas de boire un verre, je parle réellement de problèmes conséquents d'alcoolisme, d'un attachement malsain à l'alcool. Ok ? Ça va ? Ça passe, ça ? Bon. Et elle se rendait compte qu'il y avait vraiment en elle quelque chose de malsain. Vous savez que parfois, ça peut détruire des générations entières. Hein. C'est pas non plus des trucs inventés. Hein. C'est vraiment... Et elle disait, en fait, qu'elle ne buvait pratiquement pas d'alcool. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui était problématique par rapport à ça. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Personne ne lui a dit, tu dois, c'est elle. Dans ça, et c'est un peu comme Anthony racontait la semaine passée. Parfois, lorsqu'on prie, c'est Dieu qui nous conduit à dire telle chose, telle chose, telle chose. Okay. Et donc, elle me raconte ça. Et alors, elle me dit, oui, mais voilà, dans ma maison, j'ai vraiment des centaines de bouteilles d'alcool. J'en ai partout. Mais je ne les bois pas. C'est juste des souvenirs du passé. Son père tenait un bistrot, donc c'était vraiment voilà. Et donc je lui ai dit, bon ben, comme c'est la journée de prière et que Ésaïe 58 dit que le jeûne c'est aussi de se séparer des jougs du passé, je lui ai dit, ben allons-y, allons chez toi. Et là, dans sa maison, je n'ai jamais vu ça. Il y en avait partout. C'était incroyable. Mais elle ne les buvait pas, encore une fois. Hein. C'est pas qu'elle aimait bien ou quoi. Et là, on a vidé ces bouteilles une après une. Et ça a pris du temps. Dans l'évier, là. Et ensuite, on a pris les bouteilles qui restaient et on les a amenées au parc à conteneurs. Alors, pourquoi c'était important pour elle? Parce qu'elle savait que dans sa vie, il y avait un lien malsain avec ces choses-là. Et que c'était important qu'elle s'en sépare. D'autres gens vont avoir la même chose, ça va rien leur faire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que Satan parfois établit sa domination dans nos vies ou dans des familles au travers de choses qui semblent beaucoup moins spirituelles. Mais ça n'empêche pas moins qu'il détruit comme ça. Il détruit par la haine, il détruit par la jalousie. Vous savez qu'il y a des gens qui sont littéralement rongés par un esprit de jalousie, qui ont des jalousies maladives, qui ne sont pas juste des jalousies ma sœur est plus belle que moi, et pourquoi est-ce qu'elle a des beaux cheveux, et moi j'ai des cheveux pas beaux, j'ai des cheveux crôlés, et elle a des cheveux. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des gens qui sont tenus par un lien de jalousie. Et donc, parfois, il y a vraiment des actes importants à poser, de confession des péchés et autres. Je n'entre pas dans tous les autres exemples, mais vous avez compris que tout ce que nous entreprenons dans le domaine de l'occultisme, tout ce que nous entreprenons il y a des choses aussi qui demandent des confessions particulières. Je donne toujours cet exemple. La Bible dit, la Bible dit, quiconque frappera son père ou sa mère sera maudit. Un gars qui vient à Jésus-Christ et qui vous dit, ben moi un jour j'étais énervé, j'ai mis une bonne tournole à mon père. Ça doit être confessé, hein, ça, parce que ça peut ouvrir des portes. Ça, c'est une porte ouverte, c'est une désobéissance flagrante à un commandement de Dieu et ça peut ouvrir des portes. D'accord? Quelqu'un qui vous dit, ben oui, ben moi, un jour mon père s'était remis avec une femme, et voilà, j'étais jeune, on vivait ensemble, et puis bon, ben voilà, la femme de mon père, ma belle-mère, elle me plaisait bien, et un jour on s'est embrassé. Ça ouvre des malédictions dans la vie des gens, hein, ça. Ça s'appelle, pour la Bible, c'est exactement la même chose que d'embrasser son père ou sa mère, c'est un inceste, hein, d'avoir une relation avec la femme de son père, par exemple. Donc ça doit se confesser des choses pareilles. Hein? Je vous en raconte une dernière si vous voulez. Ce n'est pas des histoires inventées, hein. Mais un père qui fait une photo de son organe et qui l'envoie à une copine, et la fille, à un moment donné, voit dans le téléphone de son père l'organe de son père, ça découvre la nudité de ton père. C'est un objet de malédiction de voir la nudité de son parent. D'accord? Donc, ça ouvre des portes. Voilà, désolé de le dire comme ça, mais Dieu a établi des règles, et quand on franchit certaines règles que Dieu a établies, on peut ouvrir des portes. Alors, pas nécessairement à des démons, c'est pas ça que je dis, mais à des désordres dans le domaine spirituel. Okay? Et donc, c'est important de confesser les choses, c'est important de se débarrasser des choses, c'est important de faire attention à des choses comme celle-là. Alors, toute manifestation nécessite de mettre en évidence ce qui a pu ouvrir la porte aux démons. Et donc, parfois, c'est important de dialoguer avec les personnes pour savoir qu'est-ce qui a pu éventuellement ouvrir les portes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et donc, parfois, c'est important de dialoguer avec les gens. Et donc, il est aussi important d'apprendre aux gens à lutter contre les influences démoniaques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important aussi d'aider chacun à pouvoir faire face. C'est un peu pour ça aussi qu'on donne cet enseignement, parce que parfois, on se repose beaucoup sur des gens précis, sur des serviteurs de Dieu ou quoi, mais chacun de nous, nous sommes enfants de Dieu. Et chacun de nous, nous avons cette autorité spirituelle que nous pouvons exercer. Et donc, comme le dit ce fameux proverbe, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui offrir du poisson tous les jours, c'est important aussi, quand des gens disent ça, de leur donner les outils pour faire face aux œuvres des ténèbres. Je vous avais raconté la dernière fois ce jeune homme qui disait que, ça c'est tout récent, qui disait que la nuit, il avait chaque nuit une présence obscure dans sa chambre qui le tourmentait et tout ça. Ben, moi, je lui ai pas dit, je vais venir dormir avec toi, comme ça. Non. Je lui ai dit, voilà comment tu peux faire lorsque ça arrive. Et donc, c'est important de donner aux gens les outils pour qu'ils puissent se libérer par eux-mêmes. Alors, face à un démon, ça, je vais dire ça rapidement et puis on va aller tout doucement vers la fin. Vous devez savoir qu'il y a deux grandes écoles. Il y a une première école qui est plus la méthode que l'on voit dans la Bible. c'est des gens qui n'ont pas peur de dialoguer avec les démons, comme Jésus le faisait. Jésus leur disait, quel est ton nom ? Légion, voilà. Et donc certains estiment, c'est un peu l'exemple de Derek Prince qui dans son livre dit, mais moi je parle avec le démon. Et Derek Prince dit que, voilà, parfois c'est parler avec le démon, c'est lui demander quel est ton nom, combien êtes-vous, depuis quand êtes-vous là, etc., etc. Et Derek Prince dit que lui, je ne sais pas, j'ai pas vu ça, hein, je ne sais pas, hein, tout ça je n'ai pas vu, mais je parle de ce qu'il dit. Il dit que quand les démons sortent, parfois ils donnent leur nom et que leur nom, ça peut être des noms comme orgueil, jalousie, haine. Mais parfois, les démons peuvent avoir des noms qui correspondent à des péchés particuliers. Bon, voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode est un peu critiquée? Premièrement, parce que dialoguer avec un démon, c'est pas tellement notre job. Nous, on sert Dieu, on glorifie Dieu, on s'occupe de Dieu. Les démons, on doit juste les chasser. Donc, voilà. Ça, c'est un. Et puis, deuxième raison, c'est parce que, n'oublie pas que la Bible dit que Satan est un menteur. Et donc, dialoguer avec un démon, c'est aussi se mettre en risque que le démon vous raconte n'importe quoi. Et qu'il vous raconte des fariboles et que vous, voilà. Donc, l'autre méthode, c'est la méthode vérité que développe notamment Neil Anderson qui écrit beaucoup là-dessus. Lui, il dit, nous n'avons pas à dialoguer avec les démons, nous avons juste à les chasser. Voilà. Alors, donc plusieurs choses qui doivent être faites, notamment lorsqu'on prie. Alors, lorsqu'on prie par rapport à ça, c'est de prier Dieu pour la personne. Parfois, quand une personne a une manifestation démoniaque, on peut simplement se mettre ensemble et prier pour la personne. Voilà, on ne fait rien d'extraordinaire. On va pas se mettre en soutane ou porter une grande croix pour faire peur aux démons. Non, on va prier. Ok. Deuxièmement, on va donner des injonctions à la personne de libérer la vie de la personne. On va proclamer la croix de Christ, proclamer l'autorité de Dieu sur la personne. Et aussi, on va invoquer l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne. C'est très important, lorsqu'on travaille à une délivrance avec quelqu'un, de ne pas laisser le temple vide. Vous connaissez ce texte qui dit « Lorsqu'un démon est chassé, il va dans le désert, il revient. » Et donc, il faut nécessairement prier pour que la personne aussi soit remplie du Saint-Esprit et que Dieu vienne remplir la personne pour ne plus laisser de place justement à l'action démoniaque. C'est très important. Alors, je finis par là. Derek Prince donnait quelques conseils. En fait, Derek Prince, il raconte dans son bouquin qu'au début, il faisait beaucoup de délivrances individuelles. Et puis qu'un jour, il s'est retrouvé dans une grande salle, dans une grande conférence, où il a parler de la délivrance, et à la fin de sa prédication, il a demandé qui, ici, aurait besoin d'une délivrance, et que là, il y a une centaine de personnes qui se sont levées, qui se sont avancées. Et comme il savait bien que parfois, pour un démon, il prenait des heures avec des gens autour de lui, il s'est dit, moi, avec 100 personnes, je ne saurais pas, c'est impossible. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, je vais vous donner quelques conseils que vous allez mettre en œuvre maintenant, quelques conditions que vous devez remplir, et ensuite je prierai pour vous tous. Ok? Et donc, dans les conditions qu'il donnait, c'était celles-ci. Alors, je les cite parce qu'elles peuvent être intéressantes pour nous aussi comme chrétiens. Hein. Pour nous aussi, parfois, on peut avoir des perturbations. Il leur disait, premièrement, soyez sûr que vous vous êtes repenti, c'est-à-dire que vous vous êtes détourné de toute forme de péché. C'est quelque chose d'important. Hein. Je sais que moi, ça me fait peur quand je lis ça, parce que je me dis, oh là là, Seigneur, tous mes péchés, quel bazar, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est important. Nous ne savons pas mixer le péché avec Dieu, ça ne va pas. On doit se détourner du péché, on doit s'en repentir. Parfois, ce n'est pas facile, hein, mais il faut demander de l'aide, il faut s'armer, il faut être accompagné. Donc, deuxièmement, il leur disait ne regardez qu'à Jésus, lui seul est le libérateur. C'est très important dans ces choses-là de ne pas non plus surestimer les humains. Hein, parfois, on donne trop de valeur à un humain comme si celui-là, en tout cas, Gino, c'est sûr, lui, si il me saura me délivrer. C'est certain. Mais on conseille aux gens de regarder à Jésus qui est le seul libérateur. Troisièmement, Il conseillait aux gens de baser leur prière uniquement sur ce que Jésus a fait pour eux par la mort sur la croix et non pas sur leurs bonnes œuvres. C'est-à-dire, il leur disait, ne vous amusez pas à dire, Seigneur, je prie 3 fois par jour, et en plus, à l'église, je m'occupe des peintures et tout ça. Et donc non, mais on se base uniquement sur ce que Jésus a fait. Nous n'avons pas d'autorité sur les démons. C'est la raison pour laquelle aussi la Bible nous met en garde contre le fait d'insulter Satan. Ça se fait parfois, il y a des gens qui, quand ils ont des moments de délivrance, ils parlent au démon, ils l'insultent. C'est des choses que nous ne devons pas faire. Nous n'avons pas d'autorité pour cela. Nous avons juste comme autorité de proclamer la victoire de Jésus. Quatrièmement, il leur disait aussi, et ça c'est important, je voudrais le dire quand même, soyez certains que par un acte volontaire, vous avez pardonné toute personne qui vous aurait blessé ou fait du mal. C'est fou, hein, ça. Mais dans la délivrance, il dit, c'est important d'évaluer le pardon aussi. Parce que le pardon aussi est une porte ouverte. On ne le voit pas comme ça, hein. On se dit toujours, oui, les gros péchés, mais non. Mais simplement, parfois, la rancune, la haine, ce sont aussi des choses qui peuvent ouvrir la porte. Et donc, il demandait aux gens de vérifier qu'ils ont bien pardonné à toute personne qui leur aurait blessé, qui les aurait, pardon, blessé ou qui leur aurait fait du mal. Alors, je vais terminer par cela, comme ça, on a le temps de terminer le culte. Il donne ceci comme conseil, parce qu'en fait, Derek Prince disait, de plus en plus, ça se fait maintenant, on encourage les gens, entre guillemets, à l'auto-délivrance. Bon, vous avez compris, mais l'idée, c'est juste qu'il peut arriver que nous puissions nous-mêmes réagir par rapport à des choses que nous vivons dans notre vie. Voici les conseils qu'il donnait. Il disait, premièrement, vérifiez que vous avez affirmé personnellement votre foi en Christ. Deuxièmement, humiliez-vous devant Dieu. C'est important de s'humilier devant Dieu, de demander la grâce de Dieu, de reconnaître qu'on a besoin du Seigneur. Troisièmement, comme on l'a dit, confessez tout péché connu. Et le Saint-Esprit peut nous éclairer sur les péchés que nous ne connaissons plus. Parfois, on a aussi des choses qu'on doit confesser dont on ne se souvient plus. Repentez-vous de tous vos péchés, se détournez du péché, pardonnez à tout le monde, rompez tout lien avec l'occultisme et toute fausse religion. Les fausses religions aussi ouvrent des portes, les fausses doctrines. Résistez avec Dieu. Je parlerai après de ce verset-là. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Et puis chassez, c'est-à-dire ordonnez à ces puissances démoniaques de s'éloigner de votre vie. Voilà, je propose d'en rester ici pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide à être paisibles. Ne sortez pas d'ici crispés, parce que Jésus a vaincu. Et que Dieu nous aide aussi à être pleinement équipés dans ces sujets et à pouvoir vivre dans la victoire que Jésus nous a donnée. Amen.